Chapitre 5 Épictète. Le sage et l'athlète. Examine les antécédents et les conséquents, et puis mets-toi à l'œuvre. Dans la grande famille du stoïcisme, après les vénérables grands-pères Zénon et Chrysippe au IIe siècle avant Jésus-Christ, viennent les petits-enfants romains de la période impériale à partir du Ier siècle, et ce sont en fait ceux-là qui nous ont laissé le plus de textes et qui ont forgé la plus grande part de l'héritage de cette école. Les trois principaux représentants de ce qu'on appelle donc le stoïcisme impérial sont, dans l'ordre chronologique, Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Autrement dit, un milliardaire, un esclave affranchi et un empereur. Preuve s'il en est que le stoïcisme s'adapte à tout type de circonstances. Et le plus fameux des trois, celui qui, dans la conduite de sa vie, s'est le plus approché de l'idéal de sagesse stoïcien, ce n'est ni le milliardaire ni l'empereur, c'est bien l'ancien esclave. Nous avons vu avec quelle franchise Sénèque faisait le compte de ses richesses et reconnaissait son imperfection et son impuissance dans la quête de sagesse. Cet aveu de faiblesse me le rend plutôt sympathique. Épictète est tout le contraire de cela. C'est un stoïcien quasi parfait. Il est beaucoup plus agaçant pour cette raison. Mais il faut convenir qu'il donne un bien meilleur exemple de sagesse, et je ne voudrais pas vous laisser sur le portrait pas très flatteur, voire un peu injuste, que j'ai fait de l'école stoïcienne au chapitre précédent. Prenons le temps d'étudier un stoïcien, un vrai. Épictète, probablement fils d'esclave, est né dans cette même condition vers l'an 50 et fut acheté par Épaphrodite, secrétaire impérial sous Néron, qui le laisse étudier auprès du stoïcien Musonius Rufus. Une anecdote très probablement fictive mais souvent rapportée donne à ce maître une réputation de violence. Épaphrodite aurait délibérément, ou par négligence selon les versions, brisé la jambe de son esclave Épictète, qui se serait contenté de prévenir avant qu'elle casse « Attention, ma jambe va casser » et de constater ensuite « Je te l'avais bien dit, elle est cassée maintenant ». Cette anecdote, rapportée pour la première fois semble-t-il par Cels, citée par Origène, contribue à asseoir la légende d'impassibilité du sage stoïcien face à tout événement, stoïque en effet dans l'épreuve de la douleur. Pour une fois, l'usage moderne du terme n'est pas totalement décalé par rapport à son sens ancien. Mais l'anecdote n'en est pas moins très douteuse et fantaisiste. Les mentions d'Épaphrodite dans les entretiens d'Épictète ne dressent pas le portrait d'un homme violent. Quelque temps après la mort de Néron en 68 et dans des circonstances inconnues, Épictète est affranchi. À présent libre, il demeure à Rome et commence à y enseigner jusqu'en 93, année où l'empereur Domitien expulse de la cité tout ce qui ressemble à un philosophe. Épictète fuit et s'installe alors à Nicopolis d'Épire en Grèce. Il y fonde une école où il enseignera durant les 40 années qui lui restent à vivre. Épictète n'a rien d'un Sénèque accumulant ses indifférents préférables que sont les richesses, mais il ne pousse pas non plus le dénuement jusqu'au point radical des cyniques. À Rome comme à Nicopolis, il se contente d'une vie simple et sobre, sans faire vœu de pauvreté pour autant. Il n'écrit rien, à l'image de Socrate et des cyniques, mais son enseignement oral sera heureusement transcrit par son élève Arien, non propice à d'inépuisables jeux de mots. Le manuel d'Épictète, dont l'auteur est donc ce bon Arien, est un condensé des enseignements d'Épictète qui met surtout l'accent sur la dimension éthique et pratique du stoïcisme. L'essentiel se trouve assez bien résumé par cette formule. Ne cherche pas à faire que les événements arrivent comme tu veux, mais veuille les événements comme ils arrivent, et le cours de ta vie sera heureux. Traduit un peu plus librement, cela pourrait donner une citation inspirante à partager sur sa timeline ou à imprimer en italique sur une carte postale. « Ma recette du bonheur, je veux que les choses arrivent comme elles arrivent. » Mais qu'on ne s'y trompe pas, cette idée est d'une radicalité absolue, presque inhumaine. Car si la chose qui nous arrive est, par exemple, la mort de tous nos proches, la recette du bonheur à la stoïcienne nous demande ceci, vouloir que tous nos proches soient morts. En disant cela, je ne tords pas le texte pour en tirer une conséquence qu'Épictète n'avait pas envisagée. L'exigence d'impassibilité face à la mort d'un proche est un thème qui revient très souvent dans le stoïcisme en général et chez Épictète en particulier. Le paragraphe précédent développait précisément ce point. Épictète écrit : Comme dans un voyage en mer, quand le navire a accosté et que tu as débarqué pour la provision d'eau, chemin faisant, tu ramasseras aussi un petit coquillage et un petit oignon. Mais il faut que ta pensée reste fixée sur le navire, que tu te retournes continuellement si jamais le pilote t'appelait. Et s'il t'appelle, que tu laisses tout cela pour t'éviter d'être jeté à bord pieds et poings liés comme le bétail. Ainsi également dans la vie, s'il t'est donné, au lieu d'un oignon et d'un coquillage, une petite femme et un petit enfant, rien ne l'empêchera. Mais si le pilote t'appelle, cours au navire, laisse tout le reste, ne te retourne même pas. Extrait du manuel d'Épictète. Voilà jusqu'où peut aller le stoïcisme dans ses aspects les plus purs et les plus rigoureux. Sa sympathique recette du bonheur paraît soudain nettement plus hardcore. Mais il faut se rappeler que la visée n'est justement pas tant le bonheur au sens où nous l'entendons souvent aujourd'hui que l'eudémonia des Grecs, c'est-à-dire la vie bonne, ce qui pour les stoïciens signifiait vivre vertueusement en accord avec l'ordre naturel des choses. S'il se trouve que cet ordre emporte ta petite femme ou ton petit enfant, c'est ainsi, conforme-y ta volonté. Si ton enfant meurt, ne le pleure pas, c'est ridicule. Un véritable stoïcien ne sera pas plus attaché à cet enfant qu'au coquillage ramassé. Que l'enfant meure ou que le coquillage soit perdu, il voudra cet événement comme n'importe quel autre événement parce qu'il suit l'ordre naturel des choses, ce que les stoïciens appelaient le destin ou providence ou encore logos. Voici, pour le plaisir, quelques passages du manuel sur ce même thème de la perte d'un proche et de l'impassibilité à observer même dans ce cas. Ne dis jamais de rien, je l'ai perdu, mais je l'ai rendu. Ton enfant est mort, il a été rendu. Ta femme est morte, elle a été rendue. Si tu veux que tes enfants, ta femme, tes amis soient toujours en vie, tu es insensé, car tu veux que ce qui est hors de ta portée soit à ta portée, et que ce qui t'est étranger soit tien. Rappelle-toi, il faut te conduire comme dans un banquet. Le plat que l'on passe à la ronde est arrivé près de toi, tends la main, prends ta part avec mesure. Il t'échappe, ne le retiens pas. Il n'est pas encore là, ne projette pas à l'avance ton désir, mais attends qu'il arrive près de toi. Ainsi avec tes enfants, ainsi avec ta femme, ainsi avec le pouvoir, ainsi avec la richesse. Et tu seras un jour digne de boire avec les dieux. Extrait du manuel d'Épictète. Le dernier passage pourrait évoquer l'idée stoïcienne des indifférents préférables présentée dans le chapitre précédent. Tant que le plat de richesse et d'avantage passe devant toi, sers-toi, c'est préférable, mais ne t'y attache pas car c'est indifférent et laisse-le repartir. Mais la suite immédiate du passage montre qu'Épictète est bien plus réservé sur cette thèse et se sent beaucoup plus proche du cynisme. Or, écrit-il, si tu ne prends pas de ce qui t'est offert, mais que tu le regardes avec dédain, alors tu ne seras pas seulement digne de boire avec les dieux, mais aussi de partager leur pouvoir. C'est par de tels actes, en effet, que Diogène, Héraclite et leurs semblables étaient justement divins et justement appelés de ce nom. Ainsi, le véritable sage stoïcien, selon Épictète, dédaigne les indifférents préférables, richesse, pouvoir, famille, et semble ultimement coïncider avec le modèle cynique de Diogène. Le sage stoïcien dispose-t-il d'un super-pouvoir grâce auquel il assignerait à sa volonté n'importe quelle fin arbitraire ? Pour ma part, lorsqu'une averse me surprend, que je suis trempé, que je m'enrhume, sans doute suffit-il que je veuille cette averse, que je veuille être trempé, que je veuille m'enrhumer, et je serai libre et le cours de ma vie heureux. Mais de fait, je ne veux pas être sous une averse, trempé et enrhumé, c'est tout le problème. Ma volonté ne se laisse pas modeler comme par une autre volonté supérieure qui lui dicterait quoi vouloir. D'où les stoïciens tireraient-ils, eux, cette mystérieuse capacité ? Lisons encore Épictète qui nous parle, une fois de plus, d'enfants morts. Quand tu vois quelqu'un pleurer, endeuillé, ou parce que son fils est parti, ou parce qu'il a perdu ses biens, prends garde de ne pas te laisser captiver par l'idée que ces mots lui viennent du dehors. Ce n'est pas l'événement qui afflige cet homme, un autre en effet n'en est pas affligé, mais c'est l'évaluation qu'il porte sur cet événement. Pourtant, dans les limites de la parole, ne crains pas de lui témoigner de la sympathie et, si le cas se présente, de gémir aussi avec lui. Applique-toi pourtant à ne pas gémir aussi au-dedans. Si je cite ce passage, ce n'est pas seulement pour ce savoureux conseil en amitié, en gros, soyez quand même un peu compatissant à l'extérieur, mais surtout pas à l'intérieur, c'est surtout parce qu'il suggère une réponse à la question que nous nous posions. Ce qui produit l'affliction chez ce père qui a perdu son fils, ce qui empêche sa volonté de se conformer à l'événement, c'est l'évaluation, la représentation qu'il s'en fait. C'est parce que le père se représente la mort ou l'absence de son fils comme un mal qu'il s'en afflige. Et c'est donc cette représentation qu'il faut corriger pour ne plus être affligé. Cette idée est absolument capitale dans le stoïcisme. Les représentations sont à l'origine des impulsions, désirs et aversions. Et c'est donc en maîtrisant ces représentations que nous pouvons maîtriser ces impulsions. Et parce que nos représentations ne dépendent que de nous, les stoïciens le soutiennent en tout cas, nos impulsions, désirs et aversions ne dépendent elles aussi que de nous. Me représenter le dernier modèle d'iPhone comme un objet merveilleux et à peu près indispensable en raison de son écran HD et des 12 millions de pixels de son appareil photo, cela aura pour conséquence que je désirerai un iPhone. Me représenter les araignées comme des monstres cauchemardesques en raison de leurs crochets venimeux et d'un nombre excessif de pattes, cela aura pour conséquence que je prendrai les araignées en aversion. Le super-pouvoir des stoïciens, qui ne désirent pas d'iPhone et n'ont pas peur des araignées, leur vient simplement du fait qu'ils se forment des représentations correctes de ces choses, tout au contraire de moi qui laisse bêtement le marketing et les films d'horreur forger l'image que je m'en fais. Ces choses, iPhone ou araignées, ne sont en soi ni désirables ni redoutables, ce sont seulement des représentations inadéquates qui me les ont rendues telles. De même, pour Épictète, celui qui souffre parce que son enfant est mort souffre non pas de l'événement lui-même, mais de la représentation inadéquate qu'il s'en fait. Ainsi ses propos rapportés dans le manuel d'Épictète. Si tu aimes un vase d'argile, dire « j'aime un vase d'argile ». Vient-il en effet à se briser, tu n'en seras pas troublé. Si tu embrasses ton enfant ou ta femme, te dire que tu embrasses un être humain. Vient-il en effet à mourir, tu n'en seras pas troublé. Si l'argument peut s'entendre concernant le vase d'argile, il semble tout de même plus difficilement convaincant s'agissant d'un être humain. Certes, j'ai tort de ne pas me représenter plus rigoureusement le fait que mes proches sont mortels. Mais quand bien même je m'efforcerai de m'imprégner de cette idée, d'y penser chaque fois que je les embrasse, il reste douteux que cette représentation lucide de leur mortalité suffise à m'empêcher de m'attacher à eux et de souffrir de leur perte. Pour comprendre tout à fait comment un stoïcien peut défendre, face à la mort d'un proche ou face à n'importe quel autre événement malencontreux, que l'on peut et qu'il faut continuer de vouloir que les choses arrivent comme elles arrivent, et vouloir donc cet événement, il faudrait préciser la notion de destin ou providence, ou logos, ou même Dieu tout simplement, centrale dans la vision stoïcienne du monde comme d'un tout parfaitement harmonieux. Mais je préfère ne pas m'y engager dans la mesure où leur pensée rejoint là une dimension assez mystique, voire religieuse. Laissons donc de côté ce point et revenons pour finir à des considérations plus terre-à-terre et rationnelles. De fait, dans une certaine mesure au moins, nous pouvons reconnaître encore aujourd'hui la pertinence de cette idée stoïcienne selon laquelle une représentation lucide de l'objet de notre désir ou de notre aversion peut contribuer à atténuer, voire à faire cesser, notre désir ou notre aversion. Un très bel exemple de cela est développé dans un long passage du manuel où Épictète discute du désir de triompher aux Jeux Olympiques. Épictète écrit: pour toute œuvre, examine ses antécédents et ses conséquents, puis engage-la. Si tu ne le fais pas, tu la commenceras avec ardeur pour n'avoir pensé à rien de ce qui s'en suivra, mais certaines difficultés apparues, tu t'en éloigneras finalement dans la honte. Tu veux vaincre aux Jeux Olympiques ? Moi aussi, par les dieux, car c'est beau. Mais examine les antécédents et les conséquents, et puis mets-toi à l'œuvre. Il te faut observer une discipline, suivre une diète, t'abstenir de gâteaux, t'entraîner par nécessité à une heure fixe sous la canicule, dans la froidure, ne boire ni boisson fraîche ni vin à tout hasard, en un mot, t'en remettre à ton entraîneur comme à un médecin, puis, dans le combat, creuser la terre. Il est possible tantôt de se démettre une main, de se fouler une cheville, de mordre maintes fois la poussière, tantôt de recevoir le fouet. Et, avec tout cela, d'être à la fin vaincu. Après cet examen, si tu le veux encore, engage-toi dans la vie d'athlète. Sinon, tu seras versatile comme les enfants qui jouent tantôt au lutteur, tantôt au gladiateur, jouent tantôt de la trompette, tantôt la tragédie. Ainsi, toi aussi, tu seras tantôt athlète, tantôt gladiateur, aujourd'hui rhéteur, demain philosophe, mais rien de toute ton âme. Extrait du chapitre 29 du manuel d'Épictète. En effet, qui n'a jamais rêvé d'être ce champion qu'un stade acclame ? Mais on ne devient pas un sportif de haut niveau du jour au lendemain, et le désirerais-je encore si je me représentais avec exactitude tous les efforts requis ? Rigueur des entraînements, souffrances endurées, renoncement et incertitude de l'emporter malgré tout cela. Si je désire devenir ce champion sans me représenter correctement tous ses antécédents et conséquents, mon désir sera aussi superficiel et impuissant que celui d'un enfant jouant successivement à être gladiateur, pirate ou youtubeur sans la moindre idée de ce dont il s'agit, singeant seulement les apparences. La suite du texte développe la similarité entre le cas de l'athlète et celui du philosophe, c'est-à-dire ici du sage stoïcien. Comme l'athlète, beaucoup désirent superficiellement sa condition, son prestige, désirent jouer au philosophe, sans se rendre compte des antécédents et des conséquents. Épictète poursuit. Il en est ainsi qui, pour avoir regardé un philosophe, veulent à leur tour aussi philosopher. Homme, examine d'abord quelle est l'affaire, puis cherche à connaître aussi ta propre nature pour voir si tu es de taille à l'assumer. Tu veux courir au pentathlon ou à la lutte ? Regarde tes bras, tes cuisses, sonde tes reins. L'un, en effet, est naturellement disposé pour une certaine tâche, l'autre pour une autre. Penses-tu qu'en pratiquant la philosophie, tu peux manger en philosophe, boire en philosophe, désirer comme un philosophe, être contrarié comme un philosophe ? Il faut rester réveillé, peiner, quitter ses intérêts privés, endurer le mépris d'un jeune esclave, la moquerie des premiers venus, être inférieur en tout, dans l'honneur, dans le pouvoir, dans les procès, dans la moindre affaire. Examine tout cela, si tu veux l'échanger contre l'impassibilité, la liberté, l'ataraxie. Si ce n'est pas le cas, ne t'avance pas. Ne sois pas comme les enfants, aujourd'hui philosophes, demain publicains, puis rhéteurs, puis procurateurs de César. Tout cela ne s'accorde pas. Tu as à être un seul homme, ou bon ou mauvais. Il te faut cultiver ou la partie maîtresse qui t'est propre, ou le dehors. Appliquer ton art ou bien aux choses intérieures, ou bien aux choses extérieures. C'est-à-dire tenir le rang ou d'un philosophe, ou d'un profane. Extrait du chapitre 29 du manuel d'Épictète. Ainsi, le sage stoïcien est une sorte d'athlète de l'intellect. Si tu n'es pas prêt aux rigueurs de l'entraînement, ne te risque pas sur cette voie. Pour ma part, en sondant mes reins, je dois reconnaître que je ne les trouve propres ni à faire un champion olympique, ni un sage stoïcien. Je m'accommoderai d'être un profane. Quelques livres pour aller plus loin. Marc Aurèle, Pensée pour moi-même, suivi du Manuel d'Épictète. Flammarion, Collection GF, 1999. Marc Aurèle, empereur de Rome plutôt sympathique, car cela existe aussi, est, après Épictète et Sénèque, le troisième grand représentant du stoïcisme impérial. Il notait ses réflexions dans une sorte de journal intime stoïcien qui n'a pas été écrit pour être publié et ne le sera que de façon posthume sous ce titre de « Pensée pour moi-même ». Ce n'est donc pas un ouvrage destiné à enseigner le stoïcisme. Marc Aurèle n'a pas d'autre interlocuteur que lui-même. Mais comme nous avons tous en commun avec l'empereur de Rome d'être humain et d'avoir à vivre, et qu'il est finalement surtout question de savoir comment bien s'y prendre, la lecture en est passionnante et souvent très touchante. Bonus dans cette édition, le texte est suivi du manuel d'Épictète. Pierre Hadot, Qu'est-ce que la philosophie antique ? Gallimard, Collection Folio, 1995. Cet ouvrage classique par le stoïcien des temps modernes qu'était Pierre Hadot est l'une des meilleures introductions aux philosophies de l'Antiquité et notamment au stoïcisme dont il souligne la dimension éthique et pratique.